Je suis heureux, ainsi que Anne-Cathy Graber, de vous accueillir pour cette soirée. Je vous remercie beaucoup de votre présence et évidemment nous avons beaucoup de chance de pouvoir tenir cette soirée puisque, comme vous savez, la semaine prochaine, ça aurait été impossible à la même heure en raison du couvre-feu. Donc nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir tenir cette soirée annuelle de la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres. Je voudrais saluer en particulier la doyenne de l'Institut protestant de théologie, Madame Valérie Nicolet, la directrice de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, Madame Anne-Sophie Vivier-Murson, le père Nicolas Tchernokrak, doyen de l'Institut Saint-Serge. Je ne peux pas énumérer tout le monde, mais je voudrais aussi saluer le père Manuel Gougaud, directeur du service pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France, Madame la pasteur Anne-Laure Danet, responsable des relations entre les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France, le père Ivan Kargiorgiev, prêtre de l'église orthodoxe bulgare, qui est co-secrétaire du Conseil d'église chrétienne en France, encore le père Jérôme Bascoul, qui est délégué à l'œcuménisme du diocèse de Paris, d'autres encore. Je suis heureux de vous retrouver ce soir et je vous remercie de votre présence. Les divers représentants d'églises ou confessions chrétiennes qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir. Dès maintenant, Anne-Cathy et moi-même, nous remercions chaleureusement les deux autres intervenants, M. Cyril Sologoub, le pasteur Christian Bacuet, que nous présenterons au fur et à mesure. Comme vous savez, cette soirée est organisée dans le cadre de la chaire de théologie œcuménique qui a été créée il y a 2 ans et qui a pour premier objectif de donner à l'œcuménisme une plus grande visibilité dans une institution comme la nôtre. L'objectif de cette chaire est aussi de contribuer, pour sa part, aux avancées d'une théologie œcuménique. Anne-Cathy Graber présentera en fin de séance nos quelques propositions d'enseignement cette année. Et parmi nos propositions, il y a chaque année, toujours, il y a la proposition d'une soirée publique, courant octobre. Et pour cette année, nous avons souhaité une réflexion sur Marie, Mère de Dieu. Il se trouve que, par une belle coïncidence, le journal La Croix de ce jeudi publie 2 comptes rendus de livres qui sont tout récemment parus sur Marie. Un livre d'Anne Lécu, ce sont des lettres adressées à Marie, et un livre de Martin Stephens qui s'intitule « Marie comme Dieu la conçoit ». Voilà. Pour nous, dans le cadre de cette chaire, nous avons souhaité donner à notre soirée le sous-titre suivant « Quel défi pour la communion des Églises ?» Marie, Mère de Dieu, quel défi pour la communion des Églises ? Il n'est qu'à besoin de rappeler que la vénération de Marie a toujours eu une grande importance dans la tradition de certaines églises orientales, comme par exemple l'église copte. Il n'est pas besoin de rappeler que Marie est très vénérée dans l'église orthodoxe. Il est également bien connu que, même si le culte marial et la théologie mariale ont tenu une grande importance dans l'Occident médiéval, ils ont fait l'objet de controverses très vives entre protestants et catholiques à l'époque moderne. Le protestantisme est réagissant contre tout ce qui, dans la dévotion et la théologie mariale, lui paraissait non seulement excessif, mais contradictoire avec la révélation du Christ seul sauveur et avec la doctrine paulinienne de la justification par la foi. L'Église catholique, de son côté, donnait grande place à Marie, comme en ont témoigné tout au long de l'époque moderne les pratiques de prière, les lieux de pèlerinage marial, la littérature au sujet de Marie, et bien sûr aussi la promulgation de 2 dogmes mariaux au XIXe et au XXe siècle. Le dialogue œcuménique de ces dernières décennies a cependant permis des rencontres très fructueuses entre catholiques et protestants, et l'on peut penser que ce dialogue n'est pas seulement important en lui-même, mais qu'il a une portée beaucoup plus large. Est-ce que ce dialogue ne contribue pas à éclairer, bien au-delà de la théologie mariale, des questions fondamentales de la théologie chrétienne, comme celle de la relation entre la créature et le Créateur, ou celle de la place du Christ dans l'histoire du salut. Dans le cadre de cette soirée, nous allons entendre plusieurs voix qui émanent de diverses traditions chrétiennes. Dans un moment, nous entendrons Anne-Cathy Graber, mennonite, qui évoquera le commentaire du Magnificat sur Luther, notamment. Nous écouterons ensuite le pasteur Christian Bacuet de l'Église protestante unie de France, qui proposera une réflexion à partir de quelques textes de l'Écriture sur Marie. J'interviendrai moi-même en dernier lieu pour évoquer un document œcuménique sur Marie, le document du groupe des Dombes, et pour proposer quelques réflexions du point de vue catholique. Mais pour commencer, nous allons entendre une voix orthodoxe, celle de M. Cyril Sologoub. Cyril Sologoub est enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur de théologie liturgique, théologie des arts liturgiques à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean le Théologien à Bruxelles. Vous êtes président du mouvement de jeunesse orthodoxe et vous êtes enseignant invité au Centre Sèvres depuis un certain nombre d'années. Vous donnerez en mars de cette année un cours sur l'art des icônes et plus spécialement sur les icônes de la Trinité. Venez nombreux, il n'y aura plus le couvre-feu à ce moment-là, c'est sûr. Vous allez nous faire entendre la voix de votre tradition, mais vous allez aussi nous inviter à voir et à contempler. À travers votre intervention sur Marie dans l'iconographie, vous allez présenter et commenter une icône évoquant la Mère de Dieu, Théotokos. Vous allez nous rendre sensibles à la manière dont la connaissance de l'iconographie dans la tradition orthodoxe peut aider les chrétiens des autres églises à approfondir leur compréhension de la figure de Marie. Je vous remercie d'avance, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Pierre-Michel, pour ces paroles d'introduction et merci de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je souhaite pour commencer dire que je crois qu'il est tout à fait important, pertinent, prometteur de procéder à un dialogue entre chrétiens autour de Marie. Je le crois pour la simple et bonne raison que la mariologie, comme on a tendance à l'appeler, alors certains orthodoxes préférons peut-être le terme de théotokologie, on en reparlera, mais la mariologie se trouve à l'interface de nombreuses disciplines théologiques, la christologie, l'anthropologie, la liturgique, l'hymnographie, l'ecclésiologie. Et donc, pour cette raison, entamer un dialogue autour de la personne de Marie, c'est parler de toutes ces disciplines-là et un petit peu clarifier les positions des uns et des autres. Alors, une des façons d'approcher Marie, c'est l'iconographie, hein, une des disciplines. J'ai oublié l'iconographie et c'est précisément celle-là qu'il m'a été demandé d'avoir ce soir avec vous. Alors, je vais présenter peut-être plus qu'une icône, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on s'intéresse à une icône, il est important de s'intéresser au nom de l'icône, ou plus précisément, au nom de la personne qui est représentée sur l'icône. C'est important car le nom, dans notre tradition chrétienne et même plus ancienne que ça, eh bien, le nom, si vous voulez, investit l'icône d'une présence. Voilà. Et donc, si on s'intéresse au nom de la Mère de Dieu sur les icônes, eh bien, on voit ces quatre lettres grecques de façon quasiment systématique, qui sont la contraction des deux mots grecs « mitir théou », c'est-à-dire « mère de Dieu ». Mère de Dieu, alors, une autre façon de désigner la mère de Dieu, proche directement de cette façon-là, c'est de la désigner comme étant la théotokos, c'est-à-dire celle qui a engendré Dieu. latin, on dirait Dei Genitrix. En français moderne, on pourrait, enfin moderne, je ne sais pas, on pourrait proposer la traduction de Dei Par. Mais c'est comme ça que, précisément, on appelle Marie dans, de façon spontanée, systématique presque, dans la tradition orthodoxe, on la désigne comme la Mère de Dieu. Alors ce nom, vous l'aurez compris, est directement hérité des débats conciliaires des premiers siècles de l'ère du christianisme, qui ont tourné ces débats non pas autour de la personne de Marie, mais autour de celle du Christ. Et ce nom-là a été donné, a été choisi de façon conciliaire comme étant la façon la plus appropriée de désigner la Mère de Dieu au concile d'Éphèse en 431. Je voudrais simplement rappeler ici l'importance du débat qu'il y a eu entre Nestorius, qui était à l'époque patriarche de Constantinople, et qui est lui-même a demandé à convoquer un concile du fait de la polémique autour de ce nom-là, du titre Théotokos, qui était rentré dans la pratique, dans la ferveur populaire. Nestorius donc disait « Je refuse de voir un dieu formé dans le sein d'une femme ». Et il propose une autre façon de désigner la mère de Dieu, Marie. Il propose le terme de « mère de l'homme », « anthropotokos », plus proche des Écritures, il est vrai. Et donc pour lui, en proposant ce terme, on voit que pour lui, la Vierge Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Hein, il propose aussi un autre terme, la mère du Christ, Christotokos, pour essayer de concilier tout le monde. Mais ce terme-là, ces deux propositions ne sont pas retenues et ils se heurtent en particulier à la personne de Cyril d'Alexandrie. Pour qui l'enjeu n'est pas tant sur le statut de Marie que sur celui du Christ et la réalité de l'incarnation. Il avait bien compris, il a bien montré que ce que proposait Nestorius induisait une sorte d'ambiguïté et introduisait une sorte de dissociation dans la personne du Christ. Et donc il y avait ici un problème sur l'unité de la personne du Christ. Certes, il y a deux natures, mais il y a une seule personne. Tout ça sera précisé justement lors de ce concile-là, mais encore plus lors du concile suivant de Chalcédoine. Mais tout ça pour vous dire que l'enjeu ici, ce n'est pas tant Marie que le Christ et son incarnation. Et donc, les chrétiens prennent conscience que nier le fait que Marie est la mère de Dieu revient d'une certaine façon à porter atteinte au dogme de l'incarnation. Et donc ça, c'est très important pour les orthodoxes, car ça donne le cadre, plutôt, de la place centrale de la Mère de Dieu dans l'économie du salut, mais qui est entièrement tournée vers la place du Christ. Hein. Et c'est la raison pour laquelle le dogme mariologique, en tous les cas tout ce qu'on peut dire autour de Marie, implique directement tout ce qu'on peut dire sur le Christ. C'est la raison pour laquelle, pour résumer tout ça, Saint Jean Damascène, un des pères de l'Église important, dit « Le seul nom de la Théotokos, la Mère de Dieu, contient tout le mystère de l'économie du salut ». Voilà, donc ça c'est la première chose qui me paraît tout à fait fondamentale et qui transparaît d'une part dans le nom donné à Marie. Et encore une fois, un orthodoxe parlera bien plus spontanément et naturellement de la Mère de Dieu plutôt que Marie, Vierge, etc. Une fois, ces mots ne sont pas interdits, hein, mais disons que on désigne Marie comme étant la Mère de Dieu, et c'est ce que montrent très bien les icônes. Et l'autre chose qui est importante à saisir et qui découle de tout ce que je viens de dire, et qui concerne les icônes, c'est que, à de très rares exceptions, vous trouverez une icône de Marie sans le Christ, C'est-à-dire que la plupart des icônes représentent Marie avec le Christ. Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, ça découle de tout ce que je viens d'expliquer. Et c'est ce que l'on voit, en tous les cas, de façon très nette dans les typologies des icônes de Marie les plus anciennes. Et je vais simplement parcourir rapidement quatre. Vous me dites quand c'est l'heure d'arrêter. Mais voici la typologie la plus ancienne qui représente Marie, la Mère de Dieu qui trône, la Mère de Dieu en majesté que l'on trouve de façon très fréquente dans les absides des églises, mais pas seulement, sur les icônes également, ou la Mère de Dieu qui est parfois entourée d'anges ou d'archanges, est assise sur un trône et porte l'enfant, le Christ, sur ses genoux. Deuxième type iconographique très courant, c'est la Mère de Dieu qui prie, cette fois-ci, donc un type, la Mère de Dieu orante. Alors c'est peut-être d'ailleurs dans ce type-là qu'on rencontre le plus souvent la Mère de Dieu sans le Christ. Mais encore une fois, ça reste des exceptions, la règle étant de représenter la Mère de Dieu avec le Christ, alors ici représenté dans une variante un petit peu plus tardive, très développée dans l'iconographie russe, où l'enfant Emmanuel est représenté dans le sein de sa mère. Et puis il y a évidemment un type très important qui est la Mère de Dieu qui montre le chemin, une traduction du grec odigitria, celle qui montre le chemin, c'est-à-dire le Christ. Et donc, on ne peut pas concevoir ce type d'icône sans la présence du Christ. Vous voyez qu'avec la main, la Vierge désigne le Sauveur. Et il y a une quatrième typologie très importante, aussi très développée ici dans la partie russe, disons, dans l'iconographie russe, c'est la Mère de Dieu miséricordieuse, avec cette étreinte, donc dont l'icône la plus connue est peut-être celle de la Vierge de Vladimir, que vous voyez à gauche, où il y a une espèce d'étreinte extrêmement touchante entre la Mère et le Fils. Voilà, deux autres choses que je voulais rajouter. Quand on parle de la Mère de Dieu, on la désigne également comme la toujours Vierge. La toujours Vierge, alors... La toujours Vierge, c'est aussi un terme, une expression conciliaire, hein, qui a été proposée au cours du 5e Concile œcuménique, cette fois-ci. Un terme auquel les orthodoxes sont très attachés, donc cette virginité perpétuelle, hein, la Vierge était Vierge avant, pendant et après l'enfantement. Alors, généralement, les chrétiens n'ont pas de problème sur la virginité avant l'enfantement. Il y a ici un fondement scripturaire assez clair, mais certains chrétiens sont plus gênés par cette affirmation de la virginité pendant et après. Alors moi, je vous propose de voir ça plus à comprendre de façon plus, comment dire, unitaire, ne pas essayer de dissocier cela et ne pas avoir une approche trop anatomique, mais comprendre que tout cela simplement reflète une sorte de disposition de la Mère de Dieu, de son être tout entier qui est tourné entièrement vers Dieu. Cette disposition, cette ouverture, elle n'a pas de raison de changer après, pendant l'enfantement, et donc une espèce d'unité et de caractère perpétuel donc de cette virginité. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la Vierge n'est pas la seule qui se dédie en quelque sorte, se dévoue aussi entièrement à Dieu. Hein, on a l'exemple des saints et beaucoup de saints dès leur enfance et beaucoup de saints qui aussi sont restés vierges. Et donc, la sainteté de ces saints ne fait que confirmer la sainteté et la virginité, pardon, la virginité de ces saints et la sainteté de ces saints, ne fait que confirmer la virginité perpétuelle, d'après moi, de la Mère de Dieu. Et voyez à quel point cette notion-là est proche de la sainteté. Donc, évidemment, la Mère de Dieu, c'est, on l'appelle la toute sainte. En grec, le terme panagia, la toute sainte. Et alors, effectivement, elle est le sommet de la sainteté. Le sommet de la sainteté d'attente et de préparation d'Israël, comme disait Olivier Clément, un de nos théologiens les plus remarquables, elle est en quelque sorte, écrivait-il, purifiée par la sainteté accumulée de ses ancêtres, sainteté qu'elle récapitule. Mais ce qui est clair pour les orthodoxes, c'est qu'elle ne peut être extraite du reste de l'humanité et qu'elle porte les conséquences du péché originel, elle porte avec tous la responsabilité commune de la chute. Donc vous comprendrez que les orthodoxes ne reconnaissent pas le dogme de l'Immaculée Conception, qui mettrait encore une fois le péril, enfin qui mettrait peut-être en péril d'une certaine façon, l'humanité du Christ et donc ce que le Christ n'a pas d'une certaine façon assumé n'est pas sauvé. Voilà. Et alors je voudrais revenir à la virginité perpétuelle qui sur les icônes se traduit par cette étoile que l'on voit, ces trois étoiles sur le front et sur les épaules, que vous trouverez sur toutes les icônes de la Mère de Dieu et qui signifie précisément cette virginité avant, pendant et après l'enfantement. Et enfin, ce sera là mes dernières paroles, je voudrais dire quelques mots sur la fête de la Dormition. La fête de la Dormition. Alors, la fête de la Dormition est l'icône de la Dormition où on voit ici, alors ce qui a inspiré cette iconographie, c'est une hymne très ancienne de Saint Jean Damascène qui est donnée ici et qui décrit précisément l'ensemble des apôtres qui représentent des apôtres et au-delà des évêques, hein, vous voyez les évêques ici. Là, ce sont des évêques. Là, ce sont les apôtres, donc qui représentent d'une certaine façon le plérôme de l'Église, qui est donc rassemblé autour de la dépouille de la Mère de Dieu. Et au centre de l'icône, il y a le Christ entouré en gloire, donc dans cette mandorle, hein, qui montre la portée eschatologique de ce qui est en train d'être représenté, qui recueille l'âme de Marie. Ici, enfant, enveloppé dans des linges blancs, de ses mains voilées. Vous voyez, le Christ a ses mains voilées en signe de respect. Et donc ça résume, si vous voulez, l'approche orthodoxe sur la Dormition, qui n'a jamais, je le précise, été formulée dogmatiquement. Jamais été formulée dogmatiquement, de façon générale. Les orthodoxes n'aiment pas, essayent d'éviter de formuler et ne le font que quand il y a une réelle menace qui porte généralement sur l'incarnation et qui montre qu'effectivement Marie est d'une certaine façon déjà ressuscitée dans sa chair du fait de cette place particulière. Elle est dès à présent au-delà de la mort, de la résurrection et du jugement. Elle a déjà, d'une certaine façon, dépassé la limite du temps et de l'éternité et se trouve dès maintenant dans le royaume. C'est ce que nous célébrons à la fête, lors de la fête de la Dormition. Les orthodoxes préfèrent ce terme-là au terme de l'Assomption. Mais vous voyez que, finalement, il s'agit de grosso modo de la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu de dogme. Et enfin, donc, je terminerai par dire que si effectivement les données dogmatiques et scripturaires sur la mère de Dieu sont extrêmement pauvres, eh bien, chez les orthodoxes, il y a la place importante de la tradition, c'est-à-dire cette expérience de l'Église, cette mémoire sacrée de ceux qui entendent et gardent les paroles de la révélation, comme dirait Saint Jean dans son épître, et cette idée très forte qu'il est finalement impossible de séparer le dogme et la vie de l'Église, l'Écriture et la tradition. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez rappelé les fondements doctrinaux hein, de cette vénération de l'icône. Vous avez montré, vous avez aidé à percevoir la variété finalement des types, des représentations de Marie. Et merci d'avoir terminé aussi en indiquant des thématiques plus spécifiques, particulièrement importantes dans la tradition orthodoxe, comme celle de la virginité perpétuelle et celle de la dormition. Avant que nous poursuivions, je ne sais pas si c'est le moment de... Oui.
Effectivement, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais la place de Marie dans les Écritures est objectivement extrêmement limitée. Chez Saint Jean, on la trouve... C'est peut-être chez Saint Jean qu'on en parle le plus. On la trouve au moment des noces de Cana. On la trouve au moment de... la crucifixion, on la trouve dans les Écritures à d'autres endroits au moment de l'Ascension et puis évidemment l'Annonciation dans tous les débuts chez Saint Luc et de la Nativité quand elle est évoquée dans les relatés dans les Évangiles. Encore une fois, ce n'est pas la personne de Marie. Ce n'est pas Marie qui sauve, ça c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, et personne n'a prêché, la prédication n'a jamais porté sur Marie. Jamais. La prédication chrétienne, apostolique, elle a toujours concerné le Christ, évidemment. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et les orthodoxes sont tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors il y a eu des dérives, il y a eu une hyperdulie, comme on dit, hein, c'est-à-dire que effectivement, je crois savoir que l'Église catholique n'a pas été exempte de telles dérives non plus. Mais en ce qui concerne la foi, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour autant, il paraît naturel, et l'histoire de l'Église l'a montré. Au travers des débats conciliaires, au travers des écrits des pères, au travers du développement liturgique, de l'hymnographie liturgique, du développement iconographique, de s'intéresser de plus près à la personne qui a donné naissance au Sauveur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien de choquant à s'intéresser à cette personne et à sa place quand même particulière dans l'histoire du salut.
Oui.
Alors, je n'ai pas dit, excusez-moi, que la virginité était ou n'était pas plutôt, enfin, anatomique. J'ai dit que la virginité ne comportait pas seulement une dimension anatomique. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Voilà. voilà. Donc, oui, je pense que les orthodoxes croient à la virginité anatomique de la Mère de Dieu avant, pendant et après. Mais si vous voulez, voilà, mon esprit, ma formulation se voulait ouverte. Et inclusive, si vous voulez, pour ceux qui bloqueraient sur cet aspect-là.
Anatomique, même après la naissance de ses autres enfants.
Oui, alors, en effet, on retrouve cela en particulier dans le dernier type iconographique dont je vous ai parlé, la Vierge de Miséricorde, qui est une icône d'une extrême douceur et d'une extrême tristesse, en fait. Si on regarde le regard de la Mère de Dieu, si on s'intéresse, on contemple le regard de la Mère de Dieu sur l'icône de la de Vladimir, dite de Vladimir, la Mère de Dieu de Vladimir, eh bien, on voit à quel point la Mère de Dieu est triste. Son regard est empreint de tristesse, car elle comprend et elle sait ce qui va se passer. Elle sait que son fils va être va mourir. Peut-être qu'elle ne sait pas dans quelles conditions et avec quelle horreur, mais d'ailleurs sur cette icône, sur le dos, il y a les instruments de la passion. Mais de façon générale, l'iconographie ne cède jamais à ce sentimentalisme trop fort. Hein. C'est peut-être même le Christ crucifié sur la croix est un Christ glorieux d'une certaine façon. À aucun moment on ne sent comme on ne représente le Christ comme un cadavre, même crucifié sur la croix, comme ça a pu beaucoup être représenté sur les calvaires en Occident. En Orient, le Christ sur la croix demeure un Christ qui est digne, qui est fort. Et alors, encore une fois, soyons clairs, le Christ a souffert sur la croix, on ne remet pas en cause cela, mais on représente ici donc le Christ qui... C'est cette volonté d'insister sur le côté déjà résurrectionnel. Hein. C'est une tendance générale dans l'orthodoxie qu'on retrouve dans l'iconographie, dans l'hymnographie liturgique. À aucun moment on ne cède au désespoir. Il y a toujours, dès la crucifixion, la résurrection qui pointe. Voilà. Mais en fait, bon, la question faudrait la poser. Mais ce qui était clair, c'est que c'est Nestorius qui a dit que, en fait, c'est lui qui avait un problème avec la formulation Marie, Mère de Dieu. Il disait, ce n'est pas possible que le Christ, qui est Dieu, naisse dans le sein d'une femme. Donc le problème, il venait de l'autre côté, si je puis dire. Et c'est là que les pères conciliaires ont compris qu'il y avait un problème, qu'il fallait, d'une certaine façon, lever l'ambiguïté et dire non, il n'y a aucun problème à dire que Marie est la mère de Dieu, donc qu'un être humain porte en son sein charnel Dieu. Voilà. Et en fait, le terme proposé par Nestorius, il tendait à minimiser cela. Et ce qu'il y avait derrière, et ce qu'ont bien senti les pères conciliaires, c'est que finalement ils avaient un problème avec l'unité des deux natures du Christ, humaine et divine, dans la personne du Christ. C'était une unité qui n'était pas si unie que ça. Et les pères conciliaires ont senti qu'il y avait un danger à ne pas accepter ce terme-là, ou plutôt à céder devant un autre terme, et donc, voilà.
Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant introduire donc la deuxième intervenante de notre soirée. Nous allons quitter la tradition issue de l'Orient grec, et cette tradition qui est si vivante dans l'orthodoxie, aujourd'hui même, et nous allons quitter cette tradition pour nous tourner davantage vers l'Occident, plus précisément le monde de la réforme. Nkadiv nous parlait essentiellement de Luther. Quelques mots rapides de présentation. Nkadiv Graber, mennonite et pasteur, elle appartient à la communauté du Chemin Neuf. Elle est enseignante associée à la faculté de théologie du Centre Sèvres, où elle enseigne notamment dans les champs de la théologie protestante, des théologies contextuelles et de l'œcuménisme. Et elle est aussi donc co-responsable de notre chaire de théologie œcuménique. Dans le cadre de cette soirée, je suis particulièrement heureux d'attirer l'attention sur l'ouvrage important qu'elle a publié sur Marie, un sujet qui prête particulièrement ce soir, Marie, une lecture comparée de Redemptoris Mater, Jean-Paul II, et du commentaire du Magnificat de Luther à la lumière des dialogues œcuméniques, un livre qui a été couronné d'ailleurs par un prix. Voilà. Anne-Cathy Graber est engagée dans la recherche et le dialogue œcuménique, entre autres comme membre de Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises et comme membre du groupe des Dombes. Elle est engagée aussi dans d'autres dialogues internationaux. Et je vais donc lui laisser la parole maintenant. Je pense que c'est après son intervention qu'il y aura le fameux décloisonnement que j'annonçais tout à l'heure. Et comme il tarde à venir, eh bien, je pense qu'il vaut mieux enchaîner avec le deuxième exposé.
D'époque, nous changeons de style aussi. Nous passons maintenant à l'Occident. Marie, Mère de Dieu, on peut se demander ce que Luther avait à nous dire à ce sujet. On a plutôt l'image d'un Luther pour qui Marie n'est pas si importante que ça. Donc, qu'a-t-il à nous apporter, même ce soir, à propos de ce titre? Alors, ce que je vous propose ce soir, tout simplement, c'est d'écouter quelques phrases clés tirées d'un ouvrage de Luther centré sur Marie. Alors, en introduction, je dirais que Marie n'est pas comprise par Luther comme le modèle de la mère, le modèle de la Vierge ou le modèle de la femme. Cependant, Marie est bien un modèle pour Luther. Et dans le commentaire du Magnificat, puisque c'est cet ouvrage que je vous propose d'entendre ce soir, vous verrez, cela ne manque pas d'étonner, parce que d'une certaine manière, c'est assez moderne, selon moi en tout cas. Alors le choix du commentaire du Magnificat s'imposait. Certes, ça n'est pas un traité de mariologie en tant que tel, mais il est le seul ouvrage d'un réformateur, à ma connaissance, du XVIe, consacré entièrement à Marie. De plus, cet ouvrage n'est pas rédigé à n'importe quelle époque. Il est rédigé, Luther l'a commencé en 1520, c'est une période très importante pour lui, très prolifique. Il est alors professeur de théologie et c'est le moment des grands écrits comme des bonnes œuvres, de la liberté du chrétien. Et il se trouve qu'au milieu de ces grandes œuvres, il commence à écrire un ouvrage à propos de Marie. Mais il s'agit aussi d'une période très tourmentée du réformateur puisqu'il est menacé d'excommunication. Il doit se cacher au château de la Wartburg où il reprend ce commentaire qu'il terminera en 21. Donc période tourmentée, en même temps prolifique. Et cet ouvrage est dédié à un jeune homme, un jeune adolescent, Jean-Frédéric de Saxe, qui est appelé à gouverner un jour. Et ce commentaire vise à transmettre à ce prince des règles pour un exercice de l'autorité qui soit conforme à l'Évangile. C'est une œuvre de circonstance, donc, mais ceci n'est pas un détail historique. Nous le verrons ultérieurement. En tout cas, le réformateur fait de Marie, chantant le Magnificat, le paradigme de la bonne gouvernance, de la bonne autorité. C'est en cela que je le trouve assez moderne, puisqu'il va donner comme modèle à un jeune prince une femme qui chante un cantique. Donc, même si l'on fait de ce livre, très souvent, d'abord un livre qui s'apparente à un livre de piété, l'éthique est en fait très présente. Et il s'agit un peu de le découvrir ensemble peut-être ce soir. Alors, dans cet écrit, Luther témoigne d'un profond respect pour Marie, en particulier en raison de son élection à être mère de Dieu. Luther n'a aucun problème avec le titre de mère de Dieu. Mais vous verrez, peut-être, j'en sais pas, qu'il le réinterprète un peu autrement, ou il le dit avec d'autres accents. L'incarnation est présentée par Luther comme la plus grande des œuvres de Dieu, le plus grand des miracles, dit-il. Elle est ce lieu de révélation où, paradoxalement, Dieu se cache. Et on reviendra là-dessus, c'est un thème important pour Luther. Dans l'incarnation, le Dieu Tout-Puissant devient faible, le Créateur créature. Le Dieu sans commencement commence dans le temps et se laisse envelopper par un corps humain. En cela, le réformateur est vraiment conforme, tout à fait conforme à l'Église ancienne. Il l'est aussi dans son emploi, dans un premier temps en tout cas, du titre Mère de Dieu. Donc vous le voyez là sur cette première diapo, le réformateur invite à considérer Marie comme une personne unique dans le genre humain, une personne élevée au-dessus de tout dont nul n'est l'égal. Or il va dire, on a résumé tout son honneur en un seul mot quand on l'appelle Mère de Dieu, en parlant d'elle ou en s'adressant à elle. Donc à l'époque, Luther était assez ambivalent. À certains moments, il insistait pour qu'on puisse s'adresser à Marie, à d'autres moments un peu moins. Donc personne ne peut rien dire de plus grand, même s'il possédait autant de langues qu'il y a de feuilles et d'herbes, d'étoiles au ciel et de sable dans la mer. Le titre de Mère de Dieu, il dit que Marie l'attribue spontanément à la grâce de Dieu et non à son mérite, car bien qu'elle ait été sans péché. Donc Luther, à cette époque, professe encore tout à fait cela. Il pense que Marie est sans péché. Mais vous verrez, il dit cela, ça n'empêche pas, vous allez voir, de parler de la petitesse aussi de Marie. Cette grâce est pourtant si suréminente qu'elle n'en a nullement été digne. Comment une créature pourrait-elle être digne d'être la mère de Dieu? Donc cela, ça va être la première question de Luther. Comment peut-on être digne de recevoir un tel titre? Alors après avoir vraiment insisté sur le fait que Marie est unique et qu'elle a un honneur et une dignité unique que les croyants ont à reconnaître, voilà ce qu'il dit qui peut tout à fait sembler en contraste. Il compare Marie à un atelier ou encore à un gîte ou une auberge joyeuse. Voilà ce qu'il dit également. Elle n'a pas été davantage qu'un gîte joyeux et une hôtesse disponible pour un tel visiteur. Il lui fait dire un peu plus loin, « Je suis seulement l'atelier dans lequel il travaille, mais je n'ai pas contribué à l'œuvre. C'est pourquoi personne ne doit non plus me louer ou me donner l'honneur de ce que je suis devenue la mère de Dieu. Au contraire, c'est Dieu et son œuvre que l'on doit honorer et louer en moi. » Alors bien sûr, surgit immédiatement la question, mais entre Dieu et Marie, ici, quelle coopération possible? La vocation maternelle de Marie, ici, n'est pas présentée comme étant l'œuvre conjointe de Dieu et de Marie. Ce ne sera jamais présenté ainsi par Luther, bien sûr. Mais le risque est grand, alors, de réduire Marie à un objet inerte, n'ayant pour seule possibilité que de se laisser choisir par Dieu. C'est ce que semble dire, nous l'avons vu, la comparaison entre Marie et le bois de la croix. Vous l'avez en bas. Elle est comme le bois de la croix qui n'a eu d'autre dignité que de se laisser choisir, de se laisser désigner pour porter le Christ. Donc bien sûr, ceci exclut radicalement toute idée de mérite, ce que combattait Luther, et d'initiative possible pour la créature dans l'œuvre de la grâce, dont l'absoluité est ainsi préservée. L'intention de Luther est de mettre l'accent sur le fait que seul Dieu est l'auteur de l'agir du justifié. Cependant, comment comprendre son insistance à souligner que Marie n'a pas contribué à l'œuvre de Dieu tout en gardant sauve la liberté de la créature? Comment entendre que l'ensemble de la personne de Marie est vraiment engagée dans cette élection à la maternité alors que tout est du côté de Dieu? Ne court-on pas ici le risque de disjoindre la personne et son corps? Ne court-on pas le risque ici de disjoindre la personne et son corps qui est comme réduit à un atelier ou au bois de la croix? Perspective certes peut-être contemporaine, mais la question est légitime ici. Il y a donc une insistance sur la passivité du recevoir qui est, selon Luther, l'activité propre de Marie. Mais c'est alors, si je m'arrêtais là, je ferais un contresens. Et probablement le fait-on souvent. C'est alors, afin de ne pas faire de contresens, qu'il nous faut entendre la place centrale que Luther accorde à la louange. Marie est réellement engagée dans son élection par la louange, qui exprime que le don vient d'un autre. Louange qui exprime sa confiance et le don de sa personne. Ainsi, serait-il faux de dire que chez Luther, l'humain ne reçoit pas vraiment l'œuvre de Dieu? La louange tient cette fonction de réponse personnelle et de réception dans la foi de l'œuvre de Dieu. Et cette louange, en tant qu'acte de foi, est créatrice en particulier de communion avec Dieu. Et une des choses qui m'a beaucoup frappée avec Luther, c'est que finalement, il va beaucoup plus insister, précisément sur le Magnificat, sur la louange, plutôt que sur le fiat, sur le oui. Il en parlera, bien sûr, ailleurs. Il n'en parle pas, bien sûr, sur le commentaire, pour le commentaire du Magnificat, mais en règle générale, pour être sûr de ne pas non plus faire de Marie une sorte de modèle inatteignable, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il va, lui, beaucoup insister sur la louange. Je cite, je prends la dernière citation. « Le fait que l'on chante dans le Regina Caeli Laetare, celui que tu as mérité de porter, et ailleurs, celui que tu étais digne de porter, ne prouve rien. Car on chante les mêmes mots au sujet de la Sainte Croix, qui était du bois et ne pouvait rien mériter. Le bois de la croix n'a eu nul autre mérite ni dignité que d'avoir été propre à faire la croix et d'avoir été désigné par Dieu à cette fin. De même, Marie n'avait aucune autre dignité en vue de cette maternité, si ce n'est d'avoir été propre et désigné à cette fin, afin qu'en tout ce soit pure grâce et non une récompense. » Donc, en gros, il ne s'agit pas du tout ici de comprendre cela comme si Luther diminuait l'importance de Marie ou la dignité de Marie. Pas du tout. Il s'agit pour Luther de souligner ici combien l'être humain, quelle que soit l'intensité et la perfection de sa sainteté, quelle que soit son intensité, il dira, hein, on l'a vu, que Marie n'a pas péché. Donc, quelle que soit l'intensité et la perfection de sa sainteté, ne peut contribuer à l'agir de la grâce, de manière directe en tout cas. Alors, il nous faut aller plus loin cette fois, et toujours à propos du titre « Mère de Dieu », puisque c'est notre sujet ce soir, ça va être là l'insistance de Luther aussi, c'est-à-dire la manière dont Marie assume son titre de Mère de Dieu. Et ça, c'est assez original, c'est-à-dire qu'il va imaginer comment Marie reçoit, assume ce titre de Mère de Dieu, son élection à Mère de Dieu. Et la manière dont elle le fait est la raison pour laquelle elle est exemplaire pour Luther. En effet, elle reçoit un don qui est unique. Personne ne le recevra jamais. Un titre qui est unique, bien sûr. Et pourtant, on le voit dans ses citations, une autre jeune fille avait été comblée par Dieu des mêmes biens, Marie aurait été prête à s'en réjouir tout autant. Et si Dieu lui avait retiré ses biens pour les donner à une autre sous ses yeux, cela n'aurait rien enlevé à son contentement. Elle était à ce point détachée de tous ses biens, laissant Dieu en demeurer le seul maître et en disposer en toute liberté. Elle reçoit donc un titre unique, et pourtant elle est prête à ne pas le faire sien. C'est en cela que Marie est exemplaire pour l'exercice de l'autorité. Sa fonction, son titre, sa mission ne sont pas le lieu de l'exercice de la puissance. Elle laisse là tous les biens. Si une autre jeune fille avait été comblée, bon, etc., vous l'avez sous les yeux. Pour Luther, le refus de l'appropriation de toute œuvre est la seule voie pour la créature, si elle veut magnifier Dieu. Et c'est en ce sens qu'il parlera de la virginité. La virginité comme un signe de désappropriation de la créature vis-à-vis de toute œuvre. Et c'est cela qui est vécu à la perfection, dit-il, en Marie, et qui fait l'admiration de Luther. Ce mouvement de désappropriation est si réel et si constant en elle que le réformateur y voit un miracle aussi grand que celui de sa maternité, donc que celui de l'incarnation. Ça, c'est assez original, je trouve, chez Luther. On voit par là combien Marie était exposée à tomber et à pécher, en sorte que le refus qu'elle oppose à l'orgueil et à l'esprit d'appropriation n'est pas un miracle de moindre importance que le fait, pour elle, d'avoir reçu tous ses biens. Donc, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là seulement, Luther dit « on peut louer Marie, on peut louer cet esprit qui est merveilleusement pur, dit-il, de Marie. Parce qu'en elle, il y a une surabondance d'honneur. » Donc il ne diminue en rien Marie, il y a une surabondance d'honneur, mais elle agit comme si elle ne le voyait pas. Et il dit, vous avez aussi cette citation sous les yeux. En vérité, c'est là un esprit qui ne fait que sauter dans la foi. Se réjouit uniquement à cause de Dieu, son salut, qu'elle ne ressent pas et qu'elle reconnaît uniquement dans la foi. Voilà donc les esprits justes, humbles, dépouillés, etc. Je vais juste m'arrêter un petit instant sur ce saut dans la foi. Évidemment, on y reconnaît un trait vraiment important de la théologie de Luther. Ce saut dans la foi, c'est-à-dire ce saut hors de soi, c'est l'extra-C de Luther, chez Luther. Et c'était une des raisons pour lesquelles il disait « Voici pourquoi notre théologie est certaine, c'est parce qu'elle nous arrache à nous-mêmes et nous établit hors de nous. » Pour quelle raison ? Pour que nous prenions appui sur ce qui est au-dehors de nous. Pour que nous prenions appui sur ce qui est au-dehors de nous. Il écrit cela dans l'Épître aux Galates. Ou alors, si on voulait parler de manière plus contemporaine, on pourrait paraphraser Eberhard Jungel, qui dit aussi qu'il parle d'une manière, vivre hors de soi, vivre de manière excentrique. Et il dit, moi je veux bien être un croyant excentrique. C'est-à-dire, ne plus être simplement auprès de soi-même, mais s'abandonner en s'en remettant entièrement à Dieu. Il dit, le croyant existe sur un mode excentrique. Alors, tout en parlant de cette surabondance d'honneur, vous commencez à comprendre aussi probablement pourquoi Luther arrivera à dire, et dira cela très clairement, Marie, elle, ne veut pas être une idole, elle ne fait rien, Dieu fait tout, c'est ainsi qu'il faut aussi invoquer tous les autres saints, donc à l'époque, ce n'était pas encore une question pour Luther, afin que l'œuvre demeure toujours tout entière l'affaire de Dieu. Donc l'enjeu ici, c'est que l'œuvre demeure tout entière l'affaire de Dieu. Ou son injonction, ainsi quiconque veut l'honorer droitement, doit renoncer à la placer seule devant ses yeux, mais il doit la placer devant Dieu, et loin au-dessous de Dieu. Dans un cinquième point, nous verrons d'un peu plus près pourquoi Marie peut être vue par Luther comme le paradigme de la bonne gouvernance. Nous avons commencé à le voir tout à l'heure dans son rapport au bien, notamment à l'honneur. Comme je vous le disais, Luther ne la voit pas comme le modèle de la mère ou de la femme, non plus de la Vierge. Alors, quelle est l'injonction la plus forte dans ces deux textes que vous avez sous les yeux ? C'est tout simplement l'appel à un changement de critères de jugement. Et c'est le fil rouge de ce commentaire du Magnificat, et c'est l'exemplarité de Marie, c'est que, en la contemplant, nous sommes conduits à changer de critères de jugement qui, alors ça c'est typiquement luthérien aussi, qui est contraire à la raison. Et cette transformation des critères de jugement est exigée de la vision du Christ en croix, qui redéfinit la notion de puissance, la compréhension de la notion de puissance. Je cite, « Regarde, le Christ était ainsi devenu sans force sur la croix, et c'est là même qu'il accomplit son plus grand acte d'éclat. Quand la puissance de l'homme, de la créature, quand la puissance de la créature apparaît quelque part, la puissance de Dieu se retire, dit-il. » Autrement dit, exercer l'autorité selon l'Évangile requiert de discerner le lieu de la vraie puissance, qui est contraire à celle que le monde espère. Et seule la foi-confiance, dont nous parlons depuis un petit moment, permet de le voir. Et on retrouve là, bien sûr, le thème cher à Luther du Dieu caché qui se révèle sous des aspects contraires. Ce thème ici fonde une autre manière d'envisager la manifestation du pouvoir. Cela signifie que le gouvernant, tout gouvernant, selon l'Évangile, ne peut mettre sa confiance en ses propres capacités ou vertus, mais en Dieu seul, qui laisse agir en lui. Lorsque l'on parle, et lorsque Luther revient très souvent sur ce Dieu caché, qui se révèle sous des aspects contraires, C'est aussi ainsi qu'il voit la relation entre Dieu et Marie. Et là, ça peut peut-être choquer, je ne sais pas, l'élection de Marie. Il va dire que Dieu choisit une femme que personne n'avait remarquée. Et quand il va traduire, par exemple, le Magnificat, ça va être aussi un de ses travaux, le travail ne va pas être que de commenter le Magnificat, ça va être de le retraduire, il ne va pas traduire le mot « humilitas » par « humilité ». Pour être sûr que ça n'est pas une vertu, il va le traduire par « néant ». Il va traduire par « néant » pour dire que Dieu voit autrement, il voit ce qui est caché aux yeux du monde. Et c'est cela que Luther appelle voir à contresens, voir et agir à contresens. Le monde et les hommes agissent à contresens. Ils regardent seulement au-dessus d'eux. Notre expérience nous montre que chaque homme consacre tous ses hommes, tous ses efforts à s'élever au-dessus de lui-même, à atteindre honneur, bon, etc. Personne ne veut regarder vers le bas. Personne ne veut regarder vers le bas. Et chacun détourne les yeux de l'endroit où se trouvent pauvreté, honte, misère, détresse et angoisse. Il dit « Il n'y a personne parmi les hommes, nul créateur qui désire de faire de rien quelque chose. » Et c'est justement ainsi qu'il va voir la manière dont il jette le regard sur le néant de Marie. Alors, je termine. Il y aurait bien d'autres points, évidemment, vous en doutez, dans ce Magnificat. Mais je termine en revenant au thème « Quel défi pour la communion des Églises ?» Eh bien, je me suis d'abord posé la question, en relisant ces points qui me paraissent saillants dans le commentaire du Magnificat, quels étaient finalement les défis, les interpellations ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur de ma propre confession, de ma propre tradition. Et là, je vais prendre la grande tradition protestante, ou les traditions protestantes, peut-être, pourrait-on dire. Alors, je me suis demandé, en réfléchissant, est-ce que Luther, dans ce texte, ne nous inciterait-il pas, nous protestants, soyons luthéro-réformés ou baptistes, à nous interroger sur notre rapport à l'écriture ? En fait, on pourrait entendre, en lisant ce commentaire, qu'avons-nous fait de l'exclamation du Magnificat ? Toutes les générations me diront bienheureuse. Ce n'est pas forcément une expression que nous reprenons souvent, mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Y a-t-il une sorte de pudeur, de crainte, à exalter la figure de la créature, choisie par pure grâce ? C'est une question que je me pose. Donc j'entends ad intra. Hein. Et qu'est-ce que cela dit peut-être du rapport à l'incarnation, du rapport au corps, à l'être humain, je mets tous les guillemets qu'il faut, capable de Dieu. Et enfin, quelque chose que j'entends pas seulement ad intra, mais peut-être pour nous tous, je crois que dans ce commentaire, Luther n'emploie jamais le mot « justifié » ou « justification ». Cependant, il parle du rapport aux œuvres, à la vocation, ici mère de Dieu, celle d'être mère de Dieu, en soulignant l'importance qu'une œuvre, qu'une vocation aussi unique soit-elle, ne nous justifie pas. Et ce faisant, il marque toute œuvre, quelle qu'elle soit, toute vocation, quelle qu'elle soit, aussi unique soit-elle, il la marque de du sceau de la gratuité et de la louange. Et je me demande si cette interpellation n'est pas à entendre pour nos œuvres ou nos vocations. Et je termine vraiment là, in fine, et je reprends, je crois, ce qui a été dit tout à l'heure par Cyril Sologoub. Je me demande si on ne peut pas constater, à travers ce que l'on a entendu là, la fonction transversale de la question mariale. Je n'ose pas dire la mariologie. La théologie mariale, peut-être, elle interpelle, elle affecte, elle déplace les articulations entre les différents champs de la théologie spirituelle, spiritualité, théologie, anthropologie, christologie, ecclésiologie, sotériologie aussi. Et en déplaçant les articulations, en marquant toutes les articulations entre les différents champs de la théologie, je me demande si elle ne confirme pas en cela ce que le cardinal Ratzinger avait dit en son temps, la mariologie, la théologie mariale, la question mariale, ne peut jamais être simplement mariologique. Mais elle se tient dans la totalité de l'ensemble fondamental formé par le Christ et l'Église. Elle se tient dans la totalité de l'ensemble fondamental formé par le Christ et l'Église. Elle est l'expression la plus concrète de cet ensemble. Donc la théologie mariale, la question mariale, en ce sens, ne sera jamais une question uniquement périphérique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Anne-Cathy.
Alors, j'ai la joie de vous présenter maintenant le pasteur Christian Bacuet. Depuis 2017, Christian Bacuet est pasteur dans la paroisse de Pantemont-Luxembourg, donc à côté d'ici. Et il y a des liens, maintenant depuis quelques années en tout cas, hein, déjà, entre la paroisse Pantemont-Luxembourg et l'église Saint-Ignace. Donc à plusieurs reprises, Christian Bacuet est déjà venu ici, ainsi que le pasteur Lauf. Christian Bacuet est pasteur depuis 1991. Et en regardant dans la revue Unité des chrétiens qui était Christian, bien qu'on se connaisse depuis pas mal d'années, il y a une interview de lui dans cette revue où il dit « Il n'y a pas de plus beau métier au monde que d'être pasteur. Je n'ai jamais déchanté, même si la réalité est toujours plus complexe lorsqu'on l'expérimente soi-même, à la fois plus joyeuse et plus pénible. » Et donc, Christian Bacuet a également été, pendant 10 ans, je crois, président de la commission des ministères de l'Église réformée de France à l'époque, maintenant l'Église protestante unie de France, donc en charge du discernement des vocations, pourrait-on dire. Il a également été, plus jeune, objecteur de conscience et très engagé dans les questions de justice, de non-violence, très engagé à l'ACAT aussi. Et puis, il a fait une thèse sur les ministères à l'Université de Strasbourg. Depuis l'enfance, dit-il aussi dans ce même interview, il est marqué par les questions œcuméniques et est aujourd'hui membre du groupe des Dombes. Donc nous sommes 3 ce soir, là, ici, à être membre du groupe des Dombes, et il y en a d'autres dans la salle que l'on salue plus particulièrement. Alors le thème de ce soir... Christian Bacuet va nous présenter un parcours de lecture des textes du Nouveau Testament. Il va nous rendre sensibles à la manière dont lui-même, mais aussi peut-être dont les traditions protestantes comprennent la figure de Marie et peuvent, pourquoi pas, aussi aider les chrétiens des autres églises à approfondir cette compréhension de la figure de Marie. Donc, merci en tout cas pour ta présence, fidèle en lien ici, et puis... pour ton intervention ce soir.
Merci. Il ne marche pas, pardon. Voilà, merci pour cette introduction. Je me demandais ce que tu allais raconter sur mon enfance.
Tout est dans le cœur.
D'accord. Voilà, donc Anne-Cathy a indiqué le champ qui m'a été demandé pour ce soir, donc de présenter la manière dont les traditions protestantes reçoivent la figure de Marie dans l'Écriture. Alors de dire les traditions protestantes, c'est déjà un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'il y a une diversité de sensibilité, de théologie, de manière de voir ou de comprendre des choses. Mais ce qui caractérise l'ensemble des traditions protestantes, c'est ce qu'on appelle le sola scriptura. Donc vous savez sans doute, ça veut dire l'écriture seule comme référence en matière de foi, en matière de vie, comme référence ultime, principale, fondamentale, supérieure à toutes les autres. Alors Marie dans la Bible, difficulté, c'est que, enfin, c'est pas, je sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on ne trouve rien dans l'Écriture qui nous parle de l'Immaculée Conception, qui nous parle de la virginité perpétuelle, qui nous parle de l'Assomption, qui nous parle de la coopération au salut, qui nous parle d'une invocation à lui adresser, même pas le titre Mère de Dieu qui est au centre de la soirée de ce soir. D'où la distance que la plupart des protestants ont par rapport à cette énumération de dogmes ou de doctrines ou de manière de comprendre Marie. Et du coup, c'est un peu un défi de lire l'Écriture. C'est un triple défi, on pourrait dire. Il y a un premier défi, c'est d'abord d'essayer de s'abstenir de ces points doctrinaux que je viens de citer pour essayer d'accueillir le témoignage biblique tel qu'il nous est présenté. Ça veut dire essayer de lire ces textes sans y chercher l'écho qui justifierait ces doctrines, sans non plus y chercher de la polémique qui serait contre ces doctrines-là. C'est un défi parce que c'est toujours difficile de se mettre à l'écart des présupposés que l'on a. Le deuxième défi, c'est de recevoir la figure de Marie comme on reçoit d'autres figures bibliques. Abraham, David, Moïse, Déborah, Paul, Pierre, on ne va pas citer tous les témoins de Dieu qu'il y a dans la Bible, mais il y en a plein. Des témoins de la bonne nouvelle, et parmi ces témoins, il y a Marie. Marie qui a des caractéristiques uniques, puisque c'est elle qui a eu Jésus dans son ventre, et qui a accouché de Jésus, et qui a ensuite été la mère de Jésus pendant tout le temps de ce ministère de Jésus, avec une relation complexe, mais on va y revenir, dont nous parlent les Écritures. C'est un personnage comme les autres personnages, et en même temps qui a un rôle unique, qui est celui de la mère de Jésus. Et puis troisième défi, qui est valable pour tous les témoins bibliques que nous rencontrons, c'est de ne jamais isoler le témoin de la personne à qui ce témoin renvoie, donc le Christ. C'est-à-dire de toujours lire Marie à travers l'Évangile, à travers Jésus-Christ, non pas Marie en tant que telle, mais Marie en tant qu'elle renvoie au Christ. Voilà, après ces quelques petits préliminaires, je vous invite à regarder dans le Nouveau Testament ce que l'on nous dit de Marie. Il y a 23 passages dans le Nouveau Testament où l'on nous parle de Marie, ce qui est quand même assez important en nombre. Je ne vais pas passer un quart d'heure sur chacun des 23 passages, bien sûr, mais je vous propose d'essayer de les balayer rapidement pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit, et ensuite je reprendrai pour terminer quelques points saillants. La première chose qui est frappante, c'est que en dehors des 4 évangiles, et de une mention dans le livre des Actes des Apôtres, dont on peut considérer que écrit par Luc comme le deuxième volet de son évangile, ça fait partie de cette grande matière que sont les 4 évangiles. En dehors de ces 4 évangiles et du livre des Actes des Apôtres, il y a une seule référence dans tout le reste du Nouveau Testament, une seule référence à Marie, c'est dans Galates, donc dans Paul, qui cite une fois Marie, mais sans la nommer. Il ne dit pas le nom de Marie, mais il a dans Galates 4:4, cette phrase très importante, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, et assujetti à la loi. Paul précise le verset d'après, que c'est ainsi que Dieu fait qu'il nous est donné à nous de devenir les enfants adoptifs de Dieu. C'est un texte très important parce que c'est le plus ancien texte dans le Nouveau Testament, qui évoque, enfin déjà en soi, les épîtres de Paul sont bien avant les évangiles, et c'est le plus ancien qui évoque Marie, mais qui en fait, vous le repérez, ne dit rien de Marie, mais veut tout dire sur Jésus. C'est Jésus qui est au centre de ce texte pour dire l'humanité de Jésus. Il est fils de Dieu, et comme il est né d'une femme assujettie à la loi, nous qui sommes aussi nés d'une femme et assujettis à la loi, nous pouvons être fils et filles adoptifs de Dieu. Donc c'est le thème de l'incarnation en fait, qui est là extrêmement essentiel dans ce premier texte, de l'incarnation et aussi de la famille spirituelle que nous formons, fils et filles de Dieu. Cette dimension de famille spirituelle, on la retrouve pas mal dans les 4 évangiles. Alors dans les 4 évangiles, il y a 2 récits qui se trouvent dans 3 évangiles. C'est les 2 seuls passages que l'on trouve dans plusieurs évangiles à la fois. Donc ils ont une importance certaine. Ce sont des passages qui concernent Jésus et sa famille. Et ce sont pas des passages très agréables pour Marie. Le premier se trouve dans Marc, dans Matthieu et dans Luc. C'est quand Marie et les frères de Jésus viennent visiter Marie, viennent visiter Jésus, pardon, excusez-moi. Ils veulent voir Jésus, et celui-ci leur répond, soit en regardant dans l'évangile de Marc ceux qui sont assis en cercle autour de lui, soit en regardant, en montrant de la main ses disciples dans l'évangile de Matthieu, cette phrase, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui qui est aux cieux, excusez-moi, c'est un réflexe de transition à cause de notre Père, de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Et dans la version de Luc, parallèle, Jésus dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Là encore, donc un passage qui ne dit rien de Marie en tant que telle, mais qui, son nom n'est même pas cité d'ailleurs, hein, c'est la mère de Jésus, son prénom n'est pas cité, mais qui exprime un déplacement très très important de la foi chrétienne, qui est de dire que la fratrie humaine est remplacée par la fraternité spirituelle. Ce qui compte pour être de la famille de Jésus, c'est pas d'être lié au sang, mais c'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. C'est ce qu'on retrouve dans le deuxième lot de deux passages, dans le deuxième passage dans les évangiles qui se trouve dans trois évangiles, qui est aussi un passage polémique, qui nous dit la difficulté qu'avaient les auditeurs de Jésus quand ils voyaient Jésus parce qu'ils voyaient en lui un homme. C'est dans Matthieu, dans Marc, et puis il y a un parallèle dans Jean qui n'est pas tout à fait le parallèle, mais enfin qui vient se lier complètement. On nous dit, pour ceux de la patrie de Jésus, ils se disaient, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et l'évangéliste conclut en disant, c'était pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire de voir que Jésus a une famille humaine, qu'il est lui-même charpentier, qu'il a un métier, eh bien ça trouble en fait. C'est-à-dire l'incarnation est difficile finalement à vraiment admettre. Et dans Jean, donc le parallèle, c'est quasiment pareil. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Passage qui disent les difficultés donc en croire en l'incarnation, parce que Jésus incarné nous ressemble. Une famille, un métier, etc. Ça, c'est donc les deux séries de passages qui se trouvent chacun trois fois, donc avec une importance certaine. Ensuite, je passe très rapidement sur Marc. Dans Marc, il n'y a pas d'autre allusion à Marie que ces deux passages que je viens de vous dire. Dans Matthieu, il y a beaucoup plus, à part les deux passages que je viens de montrer, de dire, on ne trouve Marie que dans les deux premiers chapitres. C'est-à-dire dans les chapitres qui nous parlent de la généalogie et des récits de l'enfance de Jésus. Il y a d'abord la longue généalogie. Vous savez que Matthieu commence par la généalogie, et cette généalogie, machin engendre machin qui engendre machin, voilà, toutes les générations, etc. Hein, ça se termine, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Donc une généalogie qui inclut Jésus par Joseph, dans l'histoire du peuple hébreu, dans tous ses ancêtres hommes et femmes, glorieux ou moins glorieux, qui se sont succédés et qui finalement aboutissent à lui. Donc une histoire humaine, pleine de force et de fragilité, d'espérance. Et ça dit en même temps que cette incarnation, elle est la réalisation de la promesse de Dieu, puisqu'on l'appelle Christ, c'est-à-dire Messie. Hein. Et la place de Marie dans cette généalogie est très intéressante, parce qu'elle est légèrement de côté, c'est un peu comme une brèche, comme une ouverture, puisqu'elle indique que Jésus n'est pas que le fruit des générations. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Hein. Donc c'est la seule fois dans toute cette généalogie que c'est dit comme ça, comme si quelque chose était interrompu, hein, ou ouvert, ou décalé. Il y a donc quelque chose de particulier dans cette généalogie, non pas à Marie, mais à Jésus dans ses origines, par Joseph inscrit dans toute l'histoire biblique, par Marie ouvrant quelque chose de nouveau. Ce nouveau est exprimé juste après, dans le verset qui suit, hein. Matthieu 1, 18, « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ, Marie sa mère était accordée en mariage à Joseph. » Et suit l'annonce à Joseph, dans laquelle est précisé que Marie ne vivait pas avec Joseph avant de se trouver enceinte par le fait du Saint-Esprit. Vous savez que c'est une citation d'Ésaïe, qui a toute une question exégétique et d'interprétation très intéressante parce que, et dans l'hébreu, Ésaïe parle de la jeune femme qui va être enceinte. Et c'est traduit dans la Septante, donc dans la traduction grecque en usage au temps du Nouveau Testament, par la Vierge. Et donc ça fait, avec le risque de ne mettre que sur une dimension biologique ou anatomique, quelque chose qui est peut-être plus large que cela. En tout cas, c'est le fruit de la promesse quand Ésaïe est cité. Et l'absence de relation sexuelle entre Marie et Joseph est le fruit d'une insistance de la part de Matthieu, puisqu'il précise que après cette annonce à Joseph, Marie ne connut pas Joseph jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel Joseph donna le nom de Jésus. Cette question de la conception de Jésus ne concerne pas en fait d'abord Marie dans le texte biblique, mais Jésus. C'est une manière de dire qu'il est inséré dans l'humanité, il est né d'une femme, et il est aussi le fruit de l'Esprit-Saint, donc il se trouve au point de rencontre entre Dieu et l'être humain. C'est en fait dans la langue et la symbolique biblique ce qui a été confessé et exprimé ensuite, et Cyril l'a rappelé tout à l'heure, dans les conciles, la double nature du Christ. C'est le même, et en même temps, il est Dieu et homme, fils d'une femme et engendré par le Saint-Esprit. Les autres passages de Matthieu, ne disent rien de particulièrement intéressant pour ce soir, à mon avis, mais c'est la visite des mages, c'est la fuite en Égypte, et puis c'est le retour en terre d'Israël. Après ces récits de l'enfance de Jésus, il n'y a plus rien dans l'évangile de Matthieu qui concerne Marie, sauf les deux passages polémiques, quand Jésus dit « ma mère, mes frères, etc. », c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Luc, c'est également dans les deux premiers chapitres que Marie est largement évoquée, donc aussi dans les récits de l'enfance. D'abord dans le récit de l'Annonciation, qui est faite là donc à Marie et pas à Joseph, par rapport à l'évangile de Matthieu, mais qui, en gros, confesse la même foi de dire qu'il y a une origine humaine de Jésus, puisque c'est Marie qui va être enceinte, et une origine divine, puisqu'elle est vierge et c'est l'Esprit-Saint qui va venir sur elle. C'est la puissance du Très-Haut qui va couvrir Marie de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Saint et Fils de Dieu. Donc ça dit encore cette confession de foi entre un Jésus qui est à la fois Dieu et homme. Ce que Luc apporte par rapport à Marie, qui n'est pas dans Matthieu, c'est la réaction de Marie à ce moment-là, qui est troublée, qui se questionne, qui interroge l'ange, et puis qui finalement accepte avec cette phrase très émouvante, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Elle a une réaction très humaine en fait, hein. Elle est troublée, et en même temps elle a confiance, comme dans la plupart des récits de vocation dans la Bible d'ailleurs. La plupart des gens qui reçoivent une parole de la part de Dieu dans la Bible ont ce double mouvement à la fois de trouble et de confiance. Marie aussi. Dans la suite on trouve la visite de Marie à Élisabeth, qui elle aussi est enceinte de manière tout aussi inattendue, puisqu'elle porte le futur Jean-Baptiste, lequel bondit dans le ventre d'Élisabeth en entendant la voix de Marie. Et Élisabeth a alors cette parole pleine de reconnaissance, c'est une béatitude envers celle qu'elle appelle la mère de mon Seigneur. Elle lui dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénie aussi est le fruit de ton sein. » Et juste après, « Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Donc Marie, ici, est reconnue par Élisabeth comme étant celle qui porte le Seigneur, la mère de mon Seigneur, dit Élisabeth à sa cousine. Et elle est reconnue bienheureuse, non pas par ses qualités, hein, mais parce que tu as cru, bienheureuse celle qui a cru. Donc c'est la figure de la croyante qui est mise en avant à ce moment-là, pas pour des qualités supérieures qu'elle aurait, mais grâce à la bénédiction de Dieu qui est venue sur elle. Donc c'est pas Marie en soi qui est heureuse, c'est Marie en tant que croyante et que portant en son sein le futur Seigneur, le Seigneur déjà peut-être. Et pour que tout soit bien clair, que ce côté bienheureux de Marie n'est pas lié à ses qualités à elle, mais à la parole de Dieu en elle, un peu plus loin dans l'Évangile, il y a un récit qui peut ressembler à ce qui est polémique par rapport à la famille de Jésus qu'on a vu un peu plus haut. Il y a une femme qui vient dire à Jésus « Heureuse celle qui t'a porté et qui t'a allaité ». Et Jésus lui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ». C'est un peu toujours la même réaction, hein, finalement, de Jésus qui renvoie sur la relation spirituelle qu'on peut avoir à lui et à la parole de Dieu. Donc la foi, pour le dire autrement, c'est pas une qualité humaine que l'on posséderait, c'est plutôt la disponibilité à accueillir la parole de Dieu qui vient à nous et qui nous rend bien heureux quand nous la vivons. Après la visite à Élisabeth, il y a le Magnificat dont a parlé Anne-Cathy, prière d'une croyante heureuse et bienheureuse. On me dira bienheureuse. C'est une prière de louange. C'est une prière qui se situe complètement dans la suite des manières de prier dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire ça dit à la fois la louange à Dieu, ça insère dans une histoire, c'est une place de confiance, et surtout ça élargit le sort de celui qui prie à l'ensemble des autres croyants, à l'ensemble du peuple, à l'ensemble de l'humanité, à la justice, enfin c'est très très large comme confession de foi, et c'est très émouvant que Marie, croyante, prie cela, et en le priant, parce qu'elle élargit à plein d'autres situations dans ce Magnificat, elle s'inscrit dans une communauté croyante. Ces mots sont des mots qu'à la fois elle reçoit en partie de l'Ancien Testament et puis qu'elle nous transmet, et qui peuvent donc porter notre prière à notre tour. La suite de l'évangile de l'enfance chez Luc, c'est l'accouchement à Bethléem, puis c'est la visite des bergers, où là il nous est précisé que Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. C'est toujours la croyante, là, disponible à l'évangile, qui comprend pas tout, mais qui sent qu'il y a quelque chose d'important et qui le garde en elle. La croyante disponible. Disponible parce que c'est à la fois joyeux et puis c'est éprouvant en même temps d'être croyant. Pour Marie, en tout cas, c'est ce qui va arriver, puisque Luc poursuit avec la présentation de l'enfant Jésus au temple à Jérusalem et la fameuse phrase de Siméon qui va dire à Marie que son fils est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, et toi-même, dit-il à Marie, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Ça nous dit que là, ce qui va se jouer, c'est beaucoup autour de Jésus, pour la chute, pour le relèvement, et puis ça nous annonce déjà quelque chose de la croix, un glaive va te transpercer. La foi, c'est suivre le Christ, mais c'est aussi le suivre jusqu'à la croix, pas seulement à la crèche, à la nativité, dans les récits d'enfance, mais aussi dans la douleur. C'est sans doute le drame de Marie, ce fils qui lui échappe, et c'est ce que Matthieu précise dans la fin des récits de l'enfance, quand Jésus à 12 ans se trouve dans le temple. Vous savez, ses parents sont repartis, et puis s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec eux, donc ils reviennent le chercher, et Marie dit à Jésus, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père, là elle parle de Joseph, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Et Jésus répond, et ça fait encore écho à ces fameux textes plutôt polémiques, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Là, il parle de Dieu. Donc il fait, pareil, un déplacement de sa famille humaine à la famille spirituelle. C'est aussi ça la foi, comme celle de Marie à ce moment-là, c'est un Christ qui nous échappe, qui nous bouscule, qui nous déplace. Ensuite, dans l'évangile de Matthieu, rien à part les récits polémiques. Dans l'évangile de Jean, j'ai presque fini. Dans l'évangile de Jean, il y a deux passages qui concernent Marie, mais sans que son nom ne soit jamais cité. C'est au tout début et à la toute fin. Au tout début, c'est les noces de Cana, quand Marie, enfin la mère de Jésus, nous dit-on, Jean ne dit pas Marie, la mère de Jésus vient pour lui dire qu'il faut faire quelque chose, il manque du vin, hein, et que Jésus a cette parole très très dure, « Que me veux-tu, femme ?» Mon heure n'est pas encore venue. Là, il appelle femme. Il appelle pas maman ou mère. C'est à la fois curieux et brutal, hein, cette terminologie pour parler à sa mère. C'est comme si là aussi, il voulait mettre comme une distanciation avec les liens familiaux. Et Marie, enfin, et la mère de Jésus dans ce texte, est pourtant importante puisqu'elle va avoir une parole de foi, puisqu'elle va dire aux serviteurs, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Elle ne sait pas du tout ce que Jésus va dire, mais elle dit « faites-le ». C'est la parole de la foi, on pourrait dire là. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. On fait confiance a priori. Et puis, juste après cet épisode des Noces de Cana, on nous dit qu'elle reprend la route avec Jésus, et avec les frères de Jésus, et avec les disciples. Donc elle fait partie du groupe qui suit Jésus. Et à la toute fin de l'évangile, on la trouve au pied de la croix. Et là encore, Jésus l'appelle « femme ». Quand il dit en montrant le disciple qu'il aime, « Femme, voici ton fils », et puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Donc là aussi, il y a quelque chose de cette filiation qui va se transformer en filiation spirituelle, puisque c'est maintenant entre Marie et le disciple que l'on aime que se fait ce lien. Et enfin, le dernier passage, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Au tout début, c'est juste après l'Ascension, quand on nous dit que la première église était rassemblée, tous unanimes étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la dernière indication. Le reste du livre des Actes, c'est-à-dire toute l'histoire de la première église, ne la mentionne plus, mais au tout début la mentionne comme faisant partie de cette communauté, avec les autres, parmi les autres, priant avec eux. Je récapitule, j'ai encore 2-3 minutes. Ouais. Je récapitule juste pour reprendre quelques éléments qui me paraissent importants. La première chose avant tout, c'est que tous ces récits bibliques, et je trouve que ça fait écho avec ce que Cyril nous a dit tout à l'heure, ça dit moins des choses sur Marie que sur l'incarnation de Jésus. C'est ça le cœur fondamental du message qui est dit dans tous ces récits. C'est que c'est à la fois essentiel, c'est Dieu et l'homme qui se rencontrent en Jésus, il est à la fois Dieu et homme, et ça nous dit aussi que c'est dur à comprendre, c'est occasion de chute, c'est pas facile. La confession de foi en Christ est dite par tous ces passages. On peut pas dire bibliquement que Marie est la mère de Dieu, du coup, hein, puis cette expression n'y est pas, mais par cette logique de l'incarnation, et en se basant bibliquement hein, sur Paul aux Galates ou sur Luc, on pourrait dire qu'elle est la mère du Fils de Dieu, hein, ou la mère du Seigneur, ça c'est la prière d'Élisabeth. Hein. Calvin préférait dire ça. Luther disait la mère de Dieu, Zwingli disait la mère de Dieu. Calvin, qui est un peu plus jeune, c'est la génération d'après, c'est pas la même histoire, c'est pas le même moment, peut-être pas la même spiritualité, ne voulait pas dire mère de Dieu parce que c'est pas biblique, mais préférait dire mère du Seigneur. Ça dit la même chose, c'est que en Jésus, c'est Dieu et l'homme qui sont présents. Ce qui est important en tout cas, c'est de pas sortir Marie de sa condition humaine, mais de la garder dans sa condition humaine parce que c'est là que s'insère le Christ, qui vient vers nous. C'est ça l'incarnation. Deuxième point, très rapidement, c'est la question de la virginité de Marie, dont, là encore, il ne s'agit pas d'une qualité de Marie, mais une manière de confesser que c'est Jésus qui a cette double nature, vrai Dieu et vrai homme. Donc c'est une affirmation christologique que de parler de la virginité de Marie. Ça témoigne du Christ. Marie est la figure de la croyante. On le voit dans tous ces récits, la manière dont elle essaie de comprendre, dont elle suit, dont elle accepte, dont elle souffre, etc. quoi. C'est bien sûr pas la seule figure de croyante, il y en a plein d'autres dans l'écriture, et je trouve que cette diversité en soi est très intéressante. Il n'y a pas une figure modèle, il y a plusieurs figures, il y a une diversité de nos vies, de nos églises, et ça c'est peut-être une dimension importante, de ne pas isoler Marie, ni du Christ, ni des autres témoins, ni de nous, puisque c'est une foi qui est vécue en Église. Cette fratrie spirituelle qui remplace la fratrie biologique. L'Église qui se trouve au pied de la croix et qui est suscitée par l'Esprit Saint. C'est mon avant-dernier tout petit point. Puisque l'Esprit Saint, je ne l'ai pas cité en passant pour le garder ici, est très très présent, notamment dans les récits d'annonce à Joseph dans Matthieu, et puis d'annonce à Marie dans l'évangile de Luc, et puis dans la visite à Élisabeth. L'Esprit Saint, c'est lui en fait qui engendre en Marie le Fils de Dieu, et c'est à cause de cela qu'elle est dite bienheureuse. C'est à cause de l'Esprit Saint que nous pouvons nous aussi être dits bienheureux quand nous sommes dans cette foi croyante en Église, au pied de la croix. Finalement, Marie, dans un écho protestant, on dirait qu'elle est plutôt ma sœur, ou notre sœur, témoin comme nous, de ce Christ qui vient en elle, qui vient par elle, qui vient pour d'autres qu'elle, et qu'elle va suivre cas un cas, comme nous, et c'est pour cela qu'elle est bien heureuse. Je pense que c'est ça qui est important pour la réconciliation des Églises, c'est que Marie est notre sœur, et donc avec elle, comme elle, mais pas par elle, mais avec elle, comme elle, nous pouvons être au pied de la croix, en Christ, et je pense très fortement que en Jésus-Christ, nous sommes déjà en communion, les uns et les autres, et nos églises entre elles. Merci.
Merci Christian pour cet itinéraire biblique. Et comme souvent dans un itinéraire, il y a des déplacements. Donc merci d'avoir partagé aussi les divers déplacements au cours de l'itinéraire. Nous allons à présent faire un pas de plus dans la question de la communion entre nos églises, dans nos relations entre nos églises, la compréhension que nous en avons, que nous avons de la, du titre de Mère de Dieu, dans le dialogue entre nos églises, avec Michel Fédou. Alors on ne présente plus Michel Fédou, surtout pas dans cette maison, mais quand même en deux mots, donc Michel Fédou est professeur de patristique et de dogmatique, très engagé dans les dialogues œcuméniques depuis très longtemps, tout d'abord au groupe des Dombes, et puis également dans le comité avec entre catholiques et orthodoxes en France, et aussi le dialogue international luthérien et catholique, donc depuis de nombreuses années. Et il va en particulier nous parler de l'ouvrage autour de Marie, du groupe des Dombes. Je précise cela parce que Michel Fédou est le seul, je crois, dans cette salle, à avoir participé à ce texte même, à la rédaction de ce texte du groupe des Dombes. Donc c'est un témoin de première main.
Merci beaucoup, Anne-Cathy. Je vais être bref, hein, puisque nous arrêtons de façon 21h30. Je vais condenser mon propos. Cyrus Legault, vous avez entendu la voix de l'orthodoxie et les paroles que nous avons entendues depuis, de part de Anne-Cathy Grabert, de Christian Bécuet, sont des paroles qui, je pense, nous aident à mesurer l'immense chemin parcouru depuis les controverses de l'époque moderne entre catholiques et protestants. Il faut réaliser que c'était inimaginable il y a quelques décennies. Et ces pas en avant ont été rendus possibles principalement, pas uniquement, mais principalement par le dialogue œcuménique. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer à un dialogue œcuménique sur la Vierge Marie, le dialogue qui a été mené par le groupe des Dombes, ce groupe catholique protestant fondé en 1937 et qui s'est régulièrement renouvelé. Donc ce groupe, dans les années 1990, a consacré plusieurs années à la préparation d'un document qui s'intitule « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints ». Je vais me contenter de résumer très brièvement quatre aspects, ou de redire quatre aspects qui m'ont frappé dans ce travail auquel j'ai participé. Et je terminerai en partageant de façon plus personnelle quelques réflexions pour l'avenir du point de vue de ma tradition catholique. Premier aspect que je soulignerai, c'est que dans le cadre de la préparation de ce document du groupe des Dombes, nous avons vécu une expérience tout à fait remarquable, alors que nous avions déjà consacré un certain nombre de journées à la réflexion. Au bout de 2 ou 3 ans, nous avons senti que nous butions sur une impasse. Et l'un des membres du groupe a dit « Il faudrait que nous prenions un bon temps pour partager les uns avec les autres sur la place que Marie occupe ou n'occupe pas dans notre vie chrétienne ». Et nous avons fait cela. Ça a duré une matinée entière et même un peu plus. Et cela nous a réservé des surprises. On s'est aperçu que certains catholiques du groupe ne donnaient en fait guère de place à Marie dans leur vie, mais que par contre, la figure de Marie avait une réelle importance pour certains protestants du groupe. Un grand enseignement, en tout cas, ressortait de ce partage. Le dialogue œcuménique sur Marie ne peut pas s'en tenir aux images préconçues, comme par exemple l'image traditionnelle des catholiques sur l'absence de dévotion mariale chez les protestants, ou inversement, l'image traditionnelle des protestants dénonçant une mariolâtrie chez les catholiques. En tout cas, il fallait dépasser ces images, et le partage que nous avons mené l'a, dans une large mesure, permis. Deuxième aspect que je retiens, la fécondité d'une lecture commune de l'histoire et d'une méditation commune sur les textes bibliques. Lecture commune de l'histoire, il a été très important dans le cadre de ce groupe de revisiter en particulier un patrimoine qui nous est commun, avant tout celui de la période patristique avec des grands textes d'Irénée, de Cyril, d'Alexandrie, d'Augustin, sur Marie, Mère de Dieu, mais aussi, très important, de découvrir comment les réformateurs au XVIe siècle avaient parlé de Marie. On l'a entendu tout à l'heure, à travers l'intervention d'Anne Cathy, la manière, par exemple, dont Luther parle de Marie dans son commentaire du Magnificat. Fécondité de cette lecture commune de l'histoire, fécondité aussi d'une méditation commune sur les textes bibliques. Lors de l'une des sessions, nous nous sommes répartis en petits groupes. Il y a un groupe qui était chargé de travailler sur les péricopes, les versets de l'évangile de Matthieu, un autre groupe sur les versets de l'évangile de Luc qui parle de Marie, un autre groupe sur les versets de l'évangile de Jean. Et ce travail que nous avons mené en petits groupes nous a permis ensuite de rédiger quelques paragraphes, plus que quelques paragraphes, c'est toute la deuxième partie du document qui, au fond, est notre lecture commune des passages relatifs à Marie dans les évangiles et plus largement dans le Nouveau Testament. Troisième point que je relèverai, troisième aspect, la contribution de notre dialogue à l'anthropologie théologique et à la sotériologie. Je donne simplement un exemple, le fameux débat sur la coopération. Faut-il tenir, comme le veulent la tradition catholique et la tradition orthodoxe, qu'il y a eu une coopération de Marie à l'œuvre du salut, ce que la tradition grecque appelle une synergeia, ou bien faut-il tenir, au contraire, comme le souligne davantage la tradition protestante, que, puisque le salut est l'œuvre de Dieu seul, eh bien Marie a été un instrument en quelque sorte passif dans l'histoire de ce salut. Eh bien, le dialogue que nous avons mené nous a permis de reconnaître ensemble, unanimement, que cette controverse traditionnelle autour de la coopération devait être dépassée. Nous nous accordons à dire que Dieu a entièrement l'initiative du salut. Et on ne peut pas pour autant nier que Marie ait tenu à sa place un rôle unique. Elle a dit oui par le fiat de l'Annonciation. Et il y a bien eu en ce sens une libre coopération de Marie, mais ce oui de Marie doit être entendu comme la réponse de la foi à l'initiative de Dieu. Quatrième point, enfin, le groupe a fait une proposition audacieuse à propos des dogmes mariaux, point sur lequel nous avons évidemment beaucoup échangé et discuté durant les années de préparation du document. Et je me contente de lire simplement la conclusion à laquelle nous avons abouti. Je cite, « L'Église catholique ne ferait pas de l'acceptation de ces deux dogmes, donc de l'Immaculée Conception et de l'Assomption, l'Église catholique ne ferait pas de l'acceptation de ces deux dogmes un préalable à la pleine communion entre les Églises, elle demanderait seulement aux partenaires avec lesquels elle renouerait cette communion de respecter le contenu de ces dogmes, de ne pas les juger contraires à l'Évangile ni à la foi, mais de les considérer comme les conséquences libres et légitimes d'une réflexion de la conscience catholique sur la cohérence de la foi. » Proposition audacieuse qui est évidemment longuement argumentée dans l'ensemble du document. Voilà simplement les quatre aspects que je voulais retenir. Et pour finir, je voudrais partager trois brèves réflexions sur les voies qui, de mon point de vue de catholique, permettraient de reprendre la question et peut-être d'aller plus loin vers un consensus œcuménique plus important à propos de Marie, Mère de Dieu. Ma première réflexion se greffe sur un constat. La pratique de la dévotion mariale a largement précédé et pour une part conditionné les développements de la réflexion théologique. La vénération de Marie comme Théotokos ou des prières anciennes comme le Subtum Presidium, sous l'abri de ta miséricorde, Je vous salue Marie, bien sûr, Salve Regina, ces prières se sont répandues parmi les chrétiens bien avant que la théologie mariale fasse l'objet de traités approfondis. Les dogmes mariaux eux-mêmes, de l'époque moderne, n'ont vu le jour que parce qu'ils répondaient à une attente de nombreux catholiques. Comme le théologien Yves de Moncheuil l'a souligné jadis à propos de l'Immaculée Conception, c'est dans une large mesure le sens spontané de la dévotion mariale dans le peuple de Dieu qui a contribué à ce que, malgré les hésitations des théologiens médiévaux, cette doctrine puisse faire l'objet d'une définition solennelle au XIXe siècle. Naturellement, on doit être conscient de toutes les ambiguïtés et déviations qui ont souvent accompagné le culte marial dans l'histoire et le document du groupe des Dombes ne manque pas de le rappeler. Je me demande toutefois s'il n'y a pas un enjeu important pour le protestantisme aussi bien que pour le catholicisme et l'orthodoxie à écouter, à essayer d'écouter ce qui se dit à travers la foi ou la dévotion mariale du peuple de Dieu, surtout lorsque cette foi, cette dévotion s'exprime chez les malades, je pense à Lourdes, ou chez les plus démunis, je pense aux formes populaires de la prière mariale dans des milieux défavorisés. N'y a-t-il pas là un lieu théologique important dans lequel nous pourrions nous retrouver et qui nous aiderait, quelle que soit notre appartenance ecclésiale, à trouver ensemble des langages pour parler aujourd'hui de Marie? En deuxième lieu, il faudrait sans doute évaluer la manière dont le texte du groupe des Dombes s'efforce de surmonter le contentieux lié aux deux dogmes mariaux de l'époque moderne. Déjà dans les années suivant sa parution, un lecteur, par ailleurs très bienveillant, Jean-Marie Hainaut, formulait la critique suivante. Même si ce document souligne que les deux dogmes en question ne sont pas secondaires, mais seulement seconds par rapport aux affirmations centrales du credo, le document considère néanmoins ces affirmations comme plus périphériques. Or, disait Jean-Marie Hainaut, ces dogmes sont, du point de vue catholique, je cite, au centre de la foi parce qu'ils attestent la réalité du salut opéré par le Christ. Je ne pense pas que cette critique mette en cause la conclusion du groupe des Dombes sur le sujet en question, à savoir, ce que je citais tout à l'heure, ne pas faire de l'acceptation des deux dogmes un préalable à la pleine communion entre les Églises, à condition que celles-ci les reconnaissent comme légitimes. Mais je pense par contre, je ne le pensais pas à l'époque où nous avons rédigé le document, mais je le pense aujourd'hui, qu'on peut légitimement discuter avec le recul l'usage que fait le document du concept de hiérarchie des vérités. Plutôt que de prendre pour base une distinction entre des vérités dites centrales et des vérités dites secondes au sein du catholicisme, ne serait-il pas plus juste d'attendre du dialogue œcuménique qu'il aide à reconnaître, dans un premier temps, la cohérence des affirmations mariales à l'intérieur de la foi catholique et la cohérence de ce que disent les protestants sur Marie à l'intérieur de leur propre tradition. Puis, cela étant fait, de se demander dans un deuxième temps comment chacune des traditions en présence est en mesure de s'enrichir elle-même au contact de l'autre. On peut espérer qu'un tel échange aiderait peut-être à s'acheminer vers un consensus plus profond. Qui sait même s'il ne serait pas possible de parvenir par cette voie à formuler non pas un nouveau dogme, mais une parole commune sur le commencement et sur la fin de la destinée qui fut celle de Marie, Mère de Dieu. Troisième réflexion prospective, enfin, je suis porté à penser que le dialogue œcuménique sur Marie s'approfondira dans une large mesure à l'avenir par le chemin de la spiritualité. Anne Cathy a rappelé l'importance de l'écrit de Luther sur le Magnificat, et l'on sait aussi la profondeur de l'expérience spirituelle dont témoigne la tradition luthérienne ultérieure à travers, en particulier, certaines œuvres de Jean-Sébastien Bach. Et Cyril Sollogoub a rappelé l'importance de l'expérience spirituelle dont témoigne la tradition orthodoxe à travers l'art de l'icône. La tradition catholique, de son côté, a produit quantité d'écrits qui porte la marque d'une méditation très profonde sur Marie, Mère de Dieu, non seulement d'ailleurs à travers la littérature proprement religieuse, comme celle de Louis Grignon de Montfort au XVIIe siècle, mais aussi à travers la littérature tout court, comme l'illustre, entre autres, l'œuvre de Charles Péguy, à laquelle le pasteur Michel Leplay, décédé cette année, vouait une si grande admiration. La source première, bien évidemment, ne peut être et ne pourra être que la parole de Dieu au sujet de Marie. Mais on peut espérer que la méditation partagée de cette parole aidera encore les chrétiens de diverses églises à surmonter les divisions héritées du passé et à s'ouvrir plus profondément à la signification de Marie, Théotokos, dans les desseins de Dieu et dans la communion des saints. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Michel, pour à la fois nous avoir montré combien des controverses fort anciennes peuvent être dépassées, mais aussi les conversions que nous pouvons vivre ensemble, qu'il nous reste à vivre. Et j'entends en particulier cette interpellation autour de la hiérarchie des vérités et puis aussi de la dévotion mariale comme lieu théologique. Alors nous pouvons conclure vu l'heure, donc on n'a pas forcément le temps maintenant d'un débat ou de questions, mais si vraiment vous voulez rencontrer tel ou tel, il y a une solution qui est possible, c'est d'assister à tel ou tel cours. Il fallait que je trouve un lien avec ça. Donc voilà, c'était un peu facilement trouvé. Donc je vais simplement distribuer très vite, enfin vous faire passer très vite les tracts sur quelques cours de la chaire de théologie œcuménique. Il y a d'autres cours donnés en dehors de la chaire, en particulier sur Marie. Je pense au cours d'Étienne Grieux qui est présent, qui est le recteur du Centre Sèvres, qui donne un cours du 26 novembre au 14 janvier prochain, de 19h30 à 21h30. Alors bien sûr, nous repréciserons sous quelle forme ces cours seront donnés, par Zoom ou autre. Et puis il y a les cours de Cyril Sologoub, dont Michel Fédou a parlé tout à l'heure. Et puis voici donc... En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions beaucoup, Michel Fédou, Étienne Grieux, le Centre Sèvres en général, d'être venus aussi nombreux. Merci à nos intervenants pour votre disponibilité et puis votre apport. Merci beaucoup. Et puis nous espérons à une autre fois, et cette fois-ci avec une salle d'emblée adaptée au nombre que nous sommes. Voilà, merci beaucoup et bonne rentrée à chacun, à chacune.